appel international sera d'une durée de 45 jours. On dit aussi qu'un rapport sera remis au gouvernement en novembre.
En studio, Benoît Charrette, qui est ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui est avec nous. Monsieur Charrette, bon matin.
Un plaisir, merci de l'invitation.
Merci d'être avec nous sur les zones de Boulevard. C'est-tu une manière désespérée de la CAQ d'avoir des votes pour les prochaines élections, de revenir avec ce fameux troisième lien qu'on veut tant avoir à Québec?
Je comprends la question, elle est très, très légitime. On a une crédibilité à regagner dans le dossier, là. Il n'y a aucun doute. Mais les avancées et reculs que l'on admet volontiers des dernières années nous permettent d'arriver avec une formule qui est nettement plus intéressante. Rappelons-nous, on était sur le point de dévoiler un tracé pour le corridor central.
Ouais.
Ce sont des investissements importants, mais c'est un tracé qui ne suscitait aucune adhésion. Très difficile d'engager autant de deniers publics pour avoir autant de mécontents. Donc, la première ministre, pendant la course à la chefferie, est allée à la rencontre des gens d'affaires, elle est à la rencontre des élus municipaux. Ils lui ont dit, l'objectif ultimement, c'est de sécuriser le réseau autoroutier, de compléter le bouclage de la grande région.
Avoir une voie de contournement devant le coup, ça se passe pas bien.
C'est engagé dans ce sens-là. Hier, l'accueil était très favorable. Oui, les gens peuvent être déçus de ces avancées, de ces reculs des dernières années, mais la formule que l'on propose aujourd'hui est celle qui génère l'adhésion qu'on n'a jamais connue là, ces dernières années. Et élément nouveau aussi suite à ces échanges, la première ministre, c'est d'engager le privé dans la réalisation de cette construction-là. Et ça aussi, c'est une innovation. Ça va nous permettre d'avoir la meilleure construction possible et surtout d'arriver à la financer grâce à l'apport du privé. Donc oui, des délais peut-être un petit peu malheureux, mais au final, on arrive avec une mouture qui est nettement plus intéressante et qui va donner des résultats passablement plus intéressants également.
On pourrait voir ce troisième lien-là bâti en quelle année?
On parle d'une dizaine d'années. Il faut être réaliste.
Vous êtes encore jeune. Vous allez être encore en politique dans 10 ans?
Bon, c'est-à-dire, je suis là depuis un petit moment. Je ne peux pas garantir la suite, mais on va s'assurer qu'il se réalise.
On parle de 10 ans à peu près.
Normalement, okay. Et si on parle d'échéancier à court terme, là, donc l'appel a été lancé hier à travers des plateformes là, qui sont connues de ces grands constructeurs à travers le monde jusqu'à la mi-août pour soumettre des intentions ou soulever des intérêts. Novembre, effectivement, premier rapport d'étape, mais au printemps prochain, on sera en mesure de parler d'un tracé précis parce que l'on parle d'un corridor. On sait que c'est à l'est, mais le tracé, quelle est la courbure de cette infrastructure-là, quelle est sa longueur et tout ça. Donc, c'est davantage au printemps avec les coûts, avec l'échéancier de réalisation, en fait de conception, ensuite construction et réalisation. Mais on est très, très réaliste. On sait que des ouvrages de cette ampleur-là, là, c'est une dizaine d'années essentiellement franchir toutes ces étapes.
Benoît Charrette, j'aime beaucoup, beaucoup les gens de l'île d'Orléans. Je les aime. Ça prend absolument un pont. Là, on leur donne un pont de 3 milliards de dollars. Ils sont seulement 7 000 sur l'île. Il n'y aurait pas eu moyen de faire un petit bout de l'autre bord par la suite.
J'aime que vous parliez de l'île d'Orléans parce que c'est exactement ce que l'on veut éviter. Moi, on est entre nous. Je sais que quelques personnes vous écoutent aussi, mais entre nous, je vous dis ceci, je le dis sur toutes les tribunes, il faut éviter de reproduire l'erreur du pont de l'île d'Orléans, mais également le pont de l'île aux Tourtes, c'est-à-dire, on sait que ce sont des infrastructures qui arrivent en fin de vie. C'était connu depuis des années, les gouvernements précédents n'avaient pas prévu leur remplacement. Dans le cas du troisième lien, on veut éviter ce scénario-là. Je ne suis pas en train de dire que le pont Pierre-Laporte ou que le pont de Québec sont en fin de vie, mais le pont de Québec a presque 110 ans. On parle d'une dizaine d'années à réaliser une nouvelle infrastructure, ça veut dire qu'il aura presque 120 ans à ce moment-là. Il n'y a aucune infrastructure qui est éternelle. Il faut éviter de planifier à la dernière minute, comme on le fait pour l'île d'Orléans, comme on le fait à Montréal pour l'île Autourte, puis on finit par payer trop cher.
Mais ma question,
lorsqu'on
c'était
construit
plus...
dans l'urgence.
Ma question, c'était plus prolonger le petit bout. On avait déjà un 3 milliards d'investis entre Québec et l'île d'Orléans. On n'aurait pas pu faire le reste de l'île d'Orléans jusqu'à Lévis?
Je comprends. comprends la question, mais non. Le pont qui est en construction, ce n'est pas un pont autoroutier. Et nous, c'est réellement sécuriser le réseau autoroutier que l'on fait. Donc, je ne pourrais pas dire, je pars de Lévis, j'attrape l'île d'Orléans, puis ensuite, je continue ma route à travers ce nouveau-là. On passerait d'une autoroute à un boulevard de bien grande, de moins grande amplitude. Donc, ça créerait un bouchon monstre et on n'aurait pas ce que l'on souhaite, sécuriser le réseau autoroutier. Et je comprends l'idée, mais non, ce ne sont pas deux projets là, qui sont compatibles. Donc, on aura deux infrastructures dans un
tunnel,
secteur.
Ça a été sorti. Ça a été sorti de l'idée.
Là, on parle d'un corridor. Et pour avoir le meilleur projet, le payer le moins cher possible, ouais. On va dire au constructeur quelle est la meilleure formule.
Vous êtes encore ouvert au tunnel?
Ben, c'est-à-dire, nous, on ouvre un corridor et les constructeurs vont nous dire quelle est la meilleure formule. Moi, honnêtement, avec les informations que j'ai, je doute que ce soit sous forme de tunnel, ne serait-ce que pour un petit passage. Parce que si on regarde où on part sur la rive sud et où on arrive sur la rive nord, ça me semble improbable, mais je ne suis pas ingénieur.
Mais il y a certains camions de marchandises qui ne peuvent pas passer dans le tunnel. Là,
Actuellement, là, et ça aussi, c'est un argument. Et je comprends, je ne convaincrai pas tout le monde de la nécessité du troisième lien, mais il faut le regarder, ce dossier-là, de façon excessivement objective. Et les deux ponts qu'on a actuellement ont des contraintes importantes. Des contraintes au niveau de la charge, des contraintes au niveau du type de véhicules qui peuvent y circuler. Donc, il faut enlever ces contraintes-là. C'est pour ça que je me dis, si on passe par le pont qui est en construction sur l'île d'Orléans, on va avoir aussi des contraintes importantes d'eau. Il faut vraiment que ce soit une toute nouvelle infrastructure autoroutière qui nous ouvre toutes les possibilités, autant pour le camionnage que pour les voitures, ultimement le transport collectif, si on peut l'intégrer à travers cette infrastructure-là. Mais actuellement, deux infrastructures vieillissantes, les deux ont des contraintes importantes. Il faut penser à l'avenir, il faut penser pour les prochaines décennies. Donc, il nous faut une infrastructure qui a le moins de contraintes possibles.
La démocratie a fait en sorte qu'on se ramasse avec un tramway à Québec. Moi, j'ai accepté le fait que les citoyens ont voté pour des gens qui voulaient le tramway. Maintenant, on est dans la phase de construction de ce dit tramway-là. Quand on fait des comparatifs avec d'autres tramways ailleurs dans le monde, on se rend compte qu'à Québec, le tramway qu'on va avoir, c'est le plus cher du kilomètre linéaire du monde entier. Qu'est-ce qui fait qu'ici, au Québec, c'est toujours plus cher qu'ailleurs? C'est-tu parce qu'on fait des travaux de meilleure qualité? Je sais pas. Pourtant, on est bâti sur la loi du plus bas soumissionnaire, M. Charrette. On dirait que ça va pas.
Général,
ça va pas
super j'étais aux bien. Infrastructures avant. Je peux vous confirmer qu'on paie trop cher pour plusieurs de nos infrastructures. C'est pour ça qu'on a apporté des changements importants là, au cours des dernières années. Dans le cas du tramway, c'est un partenariat avec le privé et la gestion des coûts, elle est suivie de façon extrêmement, extrêmement serrée. C'est un projet qui est dispendieux. Qu'est-ce qui a fait gonfler la facture de façon importante? C'est la partie tunnel. Si on est uniquement...
On est à 3 milliards pour le tunnel?
Si on est uniquement... Je n'ai pas les chiffres dans le fin détail, mais si on est uniquement en surface, comme c'est le cas pour la plupart des tramways, c'est certain que le coût au kilomètre est passablement moins élevé. Mais on a la réalité de la colline parlementaire qui doit être desservie par cette infrastructure-là. On veut relier la colline à la plus basse partie de la ville. Donc, le tunnel vient faire gonfler les coûts, mais pour ce qui est du respect du budget, avec le nombre d'instances de contrôle, je suis très, très confiant qu'on va arriver à suivre le budget.
Mais c'est une impression que j'ai, M. Charrette, qu'au Québec, on paie toujours plus cher ici qu'ailleurs?
C'est-à-dire, toujours.
C'est confirmé?
Ben, c'est-à-dire, on a la possibilité de payer moins cher, je vais le dire comme ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais aux infrastructures, on a modifié la façon de concevoir ce qu'on appelle nos specs, là, ce qui est exigé pour la réalisation d'un projet. On était tellement spécifique. Je vous donne un exemple. Au niveau de la maison des aînés, on exigeait tel type de lavabo ou tel type de robinetterie. Mais si le constructeur nous dit « je peux avoir l'équivalent en termes de spécification à coût moindre », pourquoi se priver de cette expertise-là des constructeurs? Et c'est ce qu'on est venu changer pour faire baisser les coûts de construction. Puis on veut faire exactement la même chose. Je reviens au troisième lien. On veut faire exactement la même chose avec le troisième lien. On demande au secteur privé privés de nous partager leur expertise pour arriver au meilleur projet possible, pour éviter justement qu'on s'emballe dans les coûts, éviter que l'on ait une infrastructure qui nous coûte trop cher pour ce dont on a véritablement besoin là, comme utilisation.
Les consortiums privés qui vont déposer des projets, des propositions de projets, est-ce que le gouvernement du Québec va choisir le moins cher systématiquement? Ça, on va y aller avec le moins cher ou on va y aller aussi avec l'esthétique, avec d'autres critères que simplement le prix?
Vous avez peut-être vu cette semaine ou il y a quelques jours, ma collègue au Conseil du Trésor est arrivée avec une politique des marchés publics pour mettre fin à la simple règle du plus bas soumissionnaire parce que ce n'est malheureusement pas la règle la plus efficace sur le contrôle des coûts. Donc, on
va l'appliquer sur 30% des contrats. On ne l'appliquera pas sur l'entièreté des contrats.
Non, exact, mais sur les projets majeurs notamment. Et vous faites référence à l'esthétisme. C'est certain que lorsqu'on parle d'une infrastructure à l'est, on est dans un secteur là, qui est réputé pour ses vues, qui est réputé pour son patrimoine, donc on ne fera pas quelque chose là, qui n'est pas intégré à cette réalité-là géographique en quelque sorte. Donc oui, ce sera dans les considérations, mais encore une fois, ceux et celles qui ont de l'expertise dans ce domaine-là à travers le monde seront de bons conseillers pour retenir la bonne approche parce que c'est réellement la façon dont on construit, mais la façon dont on finance l'infrastructure aussi, et c'est une façon de mieux contrôler les coûts et s'assurer que l'on peut avoir le plus rapidement possible le meilleur projet là, qui soit réaliste.
Benoît Charrette, j'en profite, vous êtes ministre des Transports et de la Mobilité durable. Quand vous vous promenez sur nos routes, comment vous trouvez l'état de nos routes, M. Charrette?
Ah, c'est désolant, ça. Moi, honnêtement, je vais tout le temps vous dire...
Les impôts vont où, M. Charrette?
On a un gros défi au niveau du maintien de nos actifs et c'est malheureusement pas propre à nos routes. Je pourrais vous parler des écoles, je pourrais vous parler de nos hôpitaux.
Mais c'est des décisions politiques qui ont fait en sorte que nos infrastructures
sur des décennies, ouais. Malheureusement.
Mais vous êtes là depuis 2018, la CAQ.
Oui, non, mais un instant. Ce sont des infrastructures qui ont été développées là, pour la plupart, autant au niveau hospitalier, scolaire que routier dans les années 60-70. Le maintien d'actifs, le déficit est connu depuis des décennies. Depuis 2018, nous, on est venu doubler l'argent que l'on met justement dans le maintien d'actifs. Juste au niveau des transports, là, c'est une moyenne, puis ça varie un petit peu d'une région à l'autre, là, mais j'arrondis, 83 % de nos budgets vont uniquement au maintien d'actifs et un 17 % pour le développement de nouvelles infrastructures. Si les gouvernements précédents avaient été un petit peu plus prévoyants...
M. Charrette, vous êtes là depuis 2018. Oui, non, pas vous personnellement,
on a doublé les budgets.
Oui, mais il y a eu l'augmentation des coûts aussi, là-dedans. Je comprends que le budget est là-dedans, mais l'augmentation des coûts, c'est quasiment le double.
Il faut planifier. Malheureusement, il y a eu une absence de planification sur le déficit du maintien d'actifs.
Ouais.
Une école qui est dégradée au point de devoir la reconstruire, ça ne s'est pas dégradé depuis 8 ans. Là.
Ouais.
C'était quelque chose qui était écrit dans le ciel, qu'il fallait prévoir sa rénovation ou sa reconstruction, mais ça n'a pas été fait par les gouvernements précédents. Donc, en 8 ans, il y a un rattrapage qui s'est fait, en plus de la construction de nouvelles écoles, nouveaux hôpitaux, parce que la population grandit, mais c'est un déficit de maintien d'actifs qui est à ce point important que ça va prendre plusieurs années et des sommes colossales avant de le résorber. C'est là où il faut payer le bon coût. C'est pour ça que lorsque j'étais aux infrastructures, on est venu revoir les modalités de construction pour s'assurer de ne pas payer trop cher inutilement, mais c'est réellement un défi qui n'est pas propre au réseau routier. On a le même défi dans tous nos réseaux, autant d'éducation que de santé.
Je vous soumets une idée. J'imagine que vous y avez pensé, puis si ce n'est pas possible, dites-le moi. Est-ce qu'on pourrait rendre responsables ceux qui font nos tronçons de route? On pourrait-tu les rendre responsables plus longtemps avec un prix pour l'entretien des routes pendant 2-3 ans? Puis si jamais ça ne fonctionne pas, puis il faut refaire, ben ce sera eux qui devront éponger la différence.
Il y a déjà des garanties de qualité dans les contrats, mais il faut aller plus loin que ça. Moi, je l'ai dit sur toutes les tribunes, le modèle actuel n'est pas viable.
Mais encore faut-il que ça soit respecté, parce que ce qu'on me dit, moi, sur le terrain, c'est que on ouvre tout de suite la route qu'on vient de refaire, donc la garantie tombe parce qu'on a ouvert la route trop rapidement.
C'est arrivé à plusieurs reprises que le ministère des Transports a demandé à un contracteur de refaire. Ça arrive régulièrement, mais c'est pas assez. Il faut réellement revoir nos façons de faire. Compte tenu du déficit de maintien d'actifs, on a réellement un mur dans lequel on se dirige actuellement. Il faudra revoir nos façons de faire. Puis le troisième lien, je reviens au sujet initial, en introduisant une formule de péage, éventuellement, on envoie le signal que ce ne sera pas toujours comme on a pu faire dans le passé. Il faut retenir des façons différentes si on veut avoir des résultats différents. Mais c'est un défi colossal. 8 ans pour réparer un manque d'entretien sur plusieurs décennies, ce n'était pas suffisant, mais au moins on a pris des décisions importantes en augmentant sensiblement les budgets. Et il ne s'est jamais, à travers tout ça, construit autant d'écoles qu'au cours des 8 dernières années. Donc, non seulement on fait du maintien d'actifs, mais on construit des nouvelles infrastructures parce que la population augmente aussi à travers tout ça.
2 questions, 10 secondes par réponse, pas plus. Monsieur Benoît Charest, vous êtes ministre des Transports et de la Mobilité durable. Advenant le cas, parce qu'ici, à la station, on a fait des pôles, puis on pense que ça va être CAQ minoritaire aux prochaines élections. Mais advenant le cas où c'est le PQ qui passe, qu'est-ce qui arrive avec le projet du troisième lien?
Ben, le PQ aura à se justifier. Moi, j'aimerais poser la question aux candidats, candidates du PQ. On fait quoi avec une infrastructure qui a plus que 110 ans? Est-ce qu'on présume qu'elle sera éternelle?
Ouais.
Est-ce qu'on pense déjà
mais
à
eux
la
se
suite?
Sont déjà prononcés comme quoi ils n'en veulent
ils
pas,
troisième.
Ils doivent
se justifier, c'est-à-dire qu'ils se prononcent.
Donc, ce que vous mettez en place là, ce n'est pas garanti pour les gouvernements qui vont arriver plus tard?
Il n'y a jamais rien de garanti. Donc, un changement de gouvernement pourrait compromettre sérieusement, effectivement, la réalisation du troisième lien ici. On va travailler pour que ça n'arrive pas, mais si on a un gouvernement majoritaire du Parti québécois, ça veut dire qu'on perd un autre 4 ans. Là. Eux vont préférer parler de référendum et tout ça. Donc, c'est des projets qui seront soit carrément mis sur la glace ou abandonnés. Mais étant donné des structures en place, moi, je ne veux pas perdre 4 ans, je ne veux pas perdre 8 ans, je ne veux pas perdre 10 ans. Il faut commencer dès maintenant à prévoir l'avenir.
Benoît Charest, est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections?
Moi, je suis là. Je vais être aux côtés de la première ministre. Donc, je vais faire campagne à ses côtés. On a réellement une nouvelle façon de gouverner. J'ai beaucoup aimé travailler avec François Legault. En fait, j'ai travaillé avec lui pendant 20 ans. Mais Christine amène un type de leadership qui est différent et qui est bienvenu là, dans les circonstances actuelles.
Benoît Charest, ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup d'être passé.
Un plaisir, une belle journée.
On s'arrête, on fait une courte pause. Textez-moi si